14. La flamme vacille. Peu de jours après, je reçus quelques lignes de Sophie. Le rayon de joie dont la flamme était montée si haut, et pour la remplir d'espérances si orageuses, s'éteignait déjà. Je n'ai pas cette lettre, mais je me rappelle son contenu. Je vois que lui et moi ne pourrons jamais nous comprendre complètement. Je retourne à Stockholm et à mon travail. C'est dans le travail que je chercherai désormais ma seule consolation. Et ce fut tout, sauf quelques paroles chaleureuses pour me féliciter à l'occasion de mon mariage, au mois de mai, je ne reçus plus de lettres de Sophie. Elle souffrait, et ne voulait pas me montrer sa souffrance, à moi qu'elle savait heureuse. Écrire des choses banales ne lui fut jamais possible. Elle se tut. Mais ce silence, après notre vie des derniers temps, si pleine d'intimité et de confiance, me blessa et m'attrista. Plus tard, je compris qu'elle n'avait pas pu faire autrement. En avril, cette même année 1890, elle fit un voyage en Russie. Elle avait quelque espoir d'être nommée académicien ordinaire à Pétersbourg. C'eût été la situation la plus avantageuse qu'elle pût souhaiter, des appointements élevés, et aucune autre suggestion que celle de passer quelques mois de l'année à Pétersbourg. C'était en outre la plus grande distinction donnée en Russie à un savant. Elle s'attacha à cet espoir, qui lui aurait donné la possibilité de réaliser son rêve le plus cher, celui de se fixer à Paris en la délivrant de l'insupportable obligation d'habiter Stockholm. Elle me disait souvent pendant notre séjour à Paris, « Si l'on ne peut avoir ce que la vie a de meilleur, le bonheur du cœur, du moins l'existence, devient-elle supportable si on vit dans un milieu intellectuel qui vous plaise ?» Mais être privé de tout est intolérable. Elle croyait alors ne pouvoir se réconcilier avec l'existence qu'à ce prix. Je ne savais plus rien de ses projets ni de ses intentions de voyage après son séjour à Pétersbourg, car elle était devenue mystérieuse pour tous lorsque, au commencement de juin, en passant par Berlin pour me rendre en Suède avec mon mari, je la rencontrai inopinément dans cette ville où elle était arrivée le jour même de Pétersbourg. Je la trouvai dans cette disposition d'esprit surexcitée qui, pour des yeux étrangers, pouvait passer pour une étincelante gaieté. Mais je la connaissais trop pour ne pas douter que cette gaieté dissimula quelques déchirements de cœur. Elle venait d'être extrêmement fêtée à Pétersbourg et à Helsingfors, où elle avait tenu un discours devant un auditoire de 1000 personnes. Elle s'était beaucoup amusée, disait-elle, et assurait avoir les plus belles espérances d'avenir, mais n'en restait pas moins sur la défensive, dans la crainte de questions trop catégoriques de ma part. Elle évitait même de se trouver seule avec moi. Nous passâmes quelques jours ensemble, causant et plaisantant surtout, et cependant j'emportais une impression pénible de cette rencontre, car au fond, je la sentais nerveuse et mal équilibrée. La seule allusion qu'elle fit à sa situation personnelle fut de déclarer qu'elle ne se marierait jamais. Elle ne voulait pas être aussi banale ni imiter les femmes qui renoncent à toute carrière personnelle du moment qu'elles ont trouvé un mari. Jamais elle ne quitterait Stockholm avant de s'être assurée une position meilleure ou avant de s'être créée une situation d'écrivain qui lui donna de quoi vivre. Du reste, elle ne cachait pas qu'elle comptait rejoindre M pour voyager avec lui. C'était le meilleur des camarades et le plus agréable des amis. Nous nous rencontrâmes quelques mois après à Stockholm, où elle revint en septembre pour la réouverture des cours. Sa gaieté forcée avait disparu, elle était de mauvaise humeur et d'une extrême agitation. Il ne me fut plus donné de connaître le fond de ses pensées, car elle fuyait le tête-à-tête et se montrait très indifférente pour nous, ses meilleurs amis. Il semblait que son âme fût ailleurs. Les mois passés à Stockholm étaient l'exil. À peine arrivée, elle ne pensait plus qu'à repartir. Sa situation était lamentable. Elle ne pouvait vivre avec M et ne pouvait se passer de lui. Sa vie avait perdu tout point d'appui, elle n'était plus qu'une plante déracinée et s'étiolait, faute de pouvoir reprendre racine. Mon frère s'étant installé à Djursholm, voulut lui persuader d'y venir habiter aussi, car jusque-là elle recherchait toujours son voisinage, pour communiquer plus facilement avec lui. Mais bien que le changement d'habitation de mon frère lui fît beaucoup de peine et lui fit sentir plus amèrement encore sa solitude de Stockholm, elle ne put se résoudre à un déplacement. Qui sait combien de temps je resterai à Stockholm? Cela ne peut durer longtemps, disait-elle constamment, et si j'y reviens encore l'année prochaine, je serai de si mauvaise humeur que vous n'aurez aucun plaisir à m'avoir pour voisine. Elle refusa même de venir visiter la nouvelle villa que Mita Gleffler se faisait construire. Elle ne s'intéressait en rien à cette nouvelle habitation et ne voulait cependant pas entrer avec indifférence dans la demeure de son meilleur ami. Elle resta sur le seuil, tandis que le reste de la société examinait l'intérieur de la villa. Le sentiment du provisoire lui devenait insoutenable à la longue. Peu à peu, elle renonça à toute relation de société, abandonna ses amis et négligea plus que jamais sa toilette et sa maison. Sa conversation elle-même avait beaucoup perdu de son charme. L'intérêt si vif que lui inspirait jadis la vie et la pensée humaine avait faibli. Elle était exclusivement absorbée par le drame intime de sa vie. 15. La fin. Je vis Sophie pour la dernière fois dans les derniers jours de décembre de cette même année 1890. Elle était venue à Djursholm nous dire adieu avant de partir pour Nice. Rien ne nous avertit que ce fut le dernier adieu. Nous fîmes le projet de nous rencontrer à Gênes, où mon mari et moi devions nous rendre aussitôt après Noël, et nous prîmes assez légèrement congé l'une de l'autre. Une erreur de télégramme empêcha cette réunion. Pendant que Sophie et son compagnon de voyage nous attendaient à Gênes, nous traversions cette ville sans savoir qu'ils s'y trouvaient. Le jour de l'an que nous espérions passer ensemble fut employé par elle et son ami à visiter le Campo Santo de Gênes. Là, un nuage passa tout à coup sur son front et elle dit avec un soudain pressentiment « L'un de nous ne passera pas l'année, car nous voilà dans un cimetière le jour de l'an. » Quelques semaines après, elle retournait à Stockholm. Ce voyage qu'elle détestait ne devait pas être seulement le plus douloureux, mais cette fois encore le plus incommode qu'elle eût jamais fait. Le cœur brisé par l'amertume de la séparation, sentant que ses déchirements incessants la tuaient, elle restait, assise dans son wagon, par ces froides et glaciales journées d'hiver, désespérée du contraste entre l'atmosphère tiède et parfumée qu'elle venait de quitter et le froid du nord. Ce froid devenait pour elle comme un symbole. Elle le prenait en horreur, avec la même passion qu'elle adorait le soleil de la Méditerranée et le parfum des fleurs. Au point de vue matériel, son voyage fut plus pénible que d'habitude. Par une singulière ironie du sort, elle ne prit pas, en quittant Berlin, la route la plus directe par Copenhague. Il y régnait une épidémie de petite vérole, et la crainte de cette maladie lui fit prendre la route plus longue et fort incommode des îles danoises. Les fréquents changements de train, joints au mauvais temps, contribuèrent probablement à lui faire prendre froid. Où elle arriva de nuit par une tempête et une pluie battante, elle ne put, faute de monnaie danoise, trouver un porteur et fut obligée de traîner elle-même son bagage, fatiguée, transie de froid et si découragée qu'elle était prête à tomber à terre. Quand elle arriva à Stockholm le mercredi matin, 4 février, elle se sentit malade, mais n'en travailla pas moins le jeudi tout entier et fit sa leçon le 6. Elle était toujours exacte et ne manquait jamais un cours, à moins d'impossibilité absolue. Le soir, elle se rendit même à un souper à l'observatoire. Là, se sentant plus souffrante, elle voulut se retirer, mais ne trouva pas de voiture et, avec le manque d'esprit pratique qui la caractérisait, se trompa d'omnibus et fit un long détour par une soirée froide et pluvieuse. Seule, abandonnée, secouée de frissons, une tristesse mortelle dans le cœur, elle resta dans l'omnibus par cette nuit glacée, sentant le mal s'emparer d'elle avec violence. Le même jour, dans la matinée, elle avait prévenu mon frère, alors recteur de l'université, qu'à tout prix elle voulait un congé au mois d'avril. Sa seule consolation en rentrant en Suède avec désespoir était de faire de nouveaux plans de départ. Dans l'intervalle, il fallait tuer l'ennui et l'agitation par le travail. Elle avait plusieurs nouveaux projets sur le tapis, des travaux littéraires et scientifiques dont elle parlait avec intérêt. Elle développa à mon frère un nouveau travail de mathématiques qui, selon lui, aurait été son œuvre la plus remarquable. À Helen Key, avec laquelle les derniers jours de sa vie se passèrent, elle parla de plusieurs nouveaux romans qu'elle avait en tête. L'un d'eux, déjà commencé, contiendrait le portrait de son père, un autre, aux trois quarts terminé, serait un pendant à Vera Vorontsov. Bien que Sophie eût souvent appelé la mort, elle ne la désirait pas encore. Selon les amis qui l'assistèrent dans ces derniers moments, elle semblait au contraire plus disposée à la résignation qu'elle ne l'avait jamais été. Le bonheur complet, celui dont l'image enflammait son âme, ne lui paraissait plus possible, mais elle en aimait encore les rayons brisés et aspirait à les voir éclairer sa route. D'ailleurs, elle avait peur du grand inconnu. Elle avait souvent avoué que la crainte d'une punition dans un autre monde l'avait seule empêchée de quitter volontairement la vie. Si elle n'avait pas de foi religieuse bien déterminée, au moins croyait-elle à la vie éternelle pour chaque individu, et parce qu'elle y croyait, elle en avait aussi la crainte. Elle redoutait par-dessus tout le moment terrible où la vie terrestre cesse, et citait souvent les paroles de Hamlet « Quels sont nos rêves dans ce sommeil de la mort ?» alors que nous aurons rejeté notre enveloppe mortelle. Avec sa vive imagination, elle se représentait les terribles secondes qui suivent l'instant où le corps, physiologiquement parlant, est mort, mais où peut-être le système nerveux vit et souffre encore, souffre un martyre indescriptible, seulement connu de ceux qui ont déjà pris leur élan dans les grandes ténèbres. Elle approuvait la crémation par crainte d'une mort apparente et décrivait d'une façon si terrible ce que l'on pouvait éprouver en se réveillant dans un cercueil qu'on était saisi de terreur. Sa maladie fut si courte et si violente qu'elle n'eut pas le temps, je crois, de penser à tout ce qui jadis avait troublé son imagination. Les seules paroles prononcées par elle, desquelles on peut conclure qu'elle pressentait la fin, furent celles-ci. Le lundi matin, le 9, 20 heures avant sa mort, elle dit « Je ne reviendrai jamais de cette maladie ». Et le soir du même jour, je sens qu'il s'opère un changement en moi. Sa seule crainte fut de rester longtemps malade. Elle évitait de parler à cause d'un point dans le côté, d'une fièvre violente et de suffocations accompagnées d'angoisse qui lui faisaient préférer rester seule. L'avant-dernière nuit, elle dit à Helen Key, toujours assise à son chevet, « Si tu m'entends gémir dans mon sommeil, réveille-moi et aide-moi à changer de position. » car je crains que cela ne tourne mal. Ma mère est morte dans une crise d'angoisse. Elle avait une maladie de cœur héréditaire et fondait là-dessus son espoir de mourir jeune. À l'autopsie, ce défaut parut sans gravité, quoiqu'il eût peut-être aggravé les suffocations qu'une violente inflammation de poumon cause par elle-même. Les amis qui l'entourèrent pendant sa courte maladie ne purent assez admirer sa douceur, sa patience, sa bonté. Elle craignait de causer de l'embarras et remerciait chaudement pour le moindre service. Sa petite fille devait aller à une fête d'enfants le mardi, et Sophie se préoccupait encore de ne pas lui faire manquer ce plaisir. Elle pria ses amis de l'aider à lui procurer un costume, et lorsque le lundi soir la petite entra chez sa mère en bohémienne, celle-ci la regarda affectueusement et lui souhaita de bien s'amuser. Quelques heures après, l'enfant fut réveillé pour recevoir le dernier regard de sa mère, fixé sur elle avec une expression de tendresse. Le lundi soir, ses deux amis, qui ne l'avaient pas quitté depuis 24 heures, cédèrent leur place à une sœur garde-malade. Le médecin ne voyait pas de danger immédiat et croyait plutôt à une maladie prolongée. Il était donc plus raisonnable pour ses amis de partager l'éveil avec une garde que d'épuiser leurs forces dès le début. À la prière de la malade elle-même, elles consentirent à la quitter la nuit, rien de particulier n'exigeant d'ailleurs leur présence. Elle dormait profondément quand ses amis la quittèrent, mais à 2 heures elle se réveilla et l'agonie commença. Elle ne montra aucun signe de connaissance, cessa de parler, de remuer, d'avaler. Cela dura 2 heures. Au dernier moment, une de ses amies, que la garde avait fait avertir, eut le temps d'accourir. Elle soutint la dernière, la terrible lutte seule avec une étrangère qui ne parlait même pas sa langue. Qui sait si une voix aimée, un tendre serrement de main, ne lui aurait pas apporté quelque consolation pendant cette terrible heure. J'aurais désiré qu'un prêtre de la mission russe fût au moins appelé. Avec la piété qu'elle conservait pour la religion de son enfance et pour tous ses premiers souvenirs, elle aurait certainement éprouvé un certain apaisement à entendre des paroles de paix arriver jusqu'à elle. Si elle ne les avait plus comprises, ses mains auraient du moins saisi la croix, cette consolation de tant de mourants qu'elle aimait comme le symbole des souffrances humaines. Mais rien, rien, aucune parole de consolation, aucune aide, aucune main amie sur son front brûlant. Seul dans ce pays étranger, le cœur déchiré, ses espérances brisées, épouvanté peut-être de ce qui l'attendait, c'est ainsi que devait finir sur terre cette âme de feu, cette âme aux profondes pensées. Les ténèbres désespérées qui, dans le premier moment de ma douleur, me semblèrent entourer ce lit de mort, s'éclairent peu à peu de quelques rayons de lumière dont mon âme est consolée. Qu'importe si la vie est longue ou courte, pourvu qu'elle ait eu sa valeur et sa signification pour soi-même et pour d'autres. À ce point de vue, la vie de Sophie fut plus longue que celle de la plupart des femmes. Elle a vécu avec intensité, bu à la coupe du bonheur et de la tristesse, nourri son intelligence aux sources de la science, gravi des hauteurs où l'imagination seule peut élever, et elle a été prodigue pour les autres de sa science, de son expérience, de sa fantaisie, de sa tendresse. Elle a su animer, encourager, comme savent le faire les intelligences exceptionnelles, si elles ne se renferment pas dans un isolement égoïste. Personne autour d'elle n'a échappé à l'influence de cet esprit ouvert, de ce cœur chaud qui éclairait et développait tout ce qui l'approchait. Son intelligence n'était si féconde que parce qu'elle n'avait rien d'égoïste et poursuivait toujours l'union, la communion de tous les intérêts intellectuels. Bien qu'il y eût beaucoup de fantaisie et d'imagination dans ses pressentiments, ses prédictions et ses rêves, il est certain qu'elle avait quelque chose d'une voyante. Lorsqu'elle fixait sur vous ses yeux myopes, mais si brillants et si spirituels, on les sentait pénétrer jusqu'au dernier repli de l'âme. Que de fois n'a-t-elle pas transpercé d'un seul regard le masque sous lequel un visage était toujours parvenu à se dissimuler jusque-là, à des yeux moins clairvoyants. Combien de fois n'a-t-elle pas découvert des motifs secrets que d'autres ne découvraient pas, les intéressaient eux-mêmes parfois. Son art aussi avait quelque chose de divinatoire. Un mot détaché, un petit épisode d'insignifiante apparence pouvait lui dévoiler le lien caché entre l'effet et la cause et devenir pour elle l'histoire de toute une vie. Le lien, c'était ce que son esprit cherchait partout, dans le monde de la pensée, comme dans les phénomènes de la vie. Elle allait jusqu'à le chercher dans les rapports inconnus entre les lois de la pensée et les phénomènes de la vie. Ce fut une source de souffrance pour elle de ne pouvoir comprendre la vie que par fragments. Aussi rêvait-elle volontiers d'une forme supérieure de l'existence où, selon la belle parole de l'apôtre, nous ne verrions plus confusément, comme au travers d'un voile, mais face à face. Trouver l'unité dans le multiple fut le but de ses recherches comme savante et comme artiste. L'a-t-elle trouvé maintenant? Ce « peut-être si obscur, si incertain » donne le vertige, mais fait battre le cœur d'un espoir tremblant et détruit l'aiguillon et l'amertume de la mort. Elle avait désiré mourir jeune. Malgré l'inaltérable jeunesse de son esprit ouvert à toute impression nouvelle, à toute nouvelle source de joie, et qui la rendait sensible comme un enfant aux moindres bagatelles, son âme avait au fond des aspirations que la vie ne pouvait satisfaire. Cet ensemble, cette unité, qu'elle cherchait dans le monde de la pensée, elle les cherchait aussi sur le terrain du sentiment. De même que son intelligence exigeait la clarté, la vérité absolue, son cœur aspirait à l'amour absolu, à l'union complète que la vie particulière à l'homme, peut-être même son caractère à elle, rendait impossible. Ce fut ce manque de cohésion entre son intelligence, les besoins de son cœur et les difficultés de la vie, aussi bien qu'entre ses aspirations et son tempérament, qui la minèrent. À ce point de vue, sa mort trouve son explication. Si on admet, comme elle, une cause profonde à tous les phénomènes, elle devait mourir non parce qu'un microbe quelconque s'était introduit dans ses poumons, ni parce que les circonstances s'étaient opposées au bonheur de sa vie, mais parce que le lien nécessaire, organique, faisait défaut entre son être intérieur et extérieur, c'est-à-dire entre sa pensée et ses sentiments, son caractère et son tempérament. Elle voyait la logique des choses et agissait sans logique. Si elle a trouvé un monde où ses oppositions peuvent se fondre, elle doit y être heureuse. Si ce monde n'existe pas, au moins a-t-elle trouvé ce qu'elle a tant souhaité, l'harmonie. Car le repos absolu est aussi l'harmonie. Rarement une mort a éveillé autant de sympathie. L'université recevait des télégrammes de condoléances de toutes les parties du monde civilisé, depuis l'Académie ultra-conservatrice de Pétersbourg, qui venait de la nommer membre correspondant, jusqu'aux écoles du dimanche de Tiflis et aux écoles primaires de Kharkov. Chacun se hâtait d'envoyer à cette mémoire l'expression de son admiration. Les femmes russes résolurent de lui élever un monument à Stockholm. Des charretées de fleurs jonchaient le sol du cimetière. Tous les journaux, toutes les revues, publièrent des articles à la louange de cette femme exceptionnelle qui, plus qu'aucune autre, faisait honneur à son sexe. Mais de toutes ces louanges, de toute cette admiration, ressort une image trop impersonnelle et trop insaisissable. Elle prend des proportions que Sophie n'aurait jamais désirées et en fait une espèce d'être monstrueux, au cerveau organisé d'une façon spéciale, qui inspire plus d'étonnement que d'attrait. Ramener cette image à des proportions plus ordinaires, décrire cette fille avec ses faiblesses, ses erreurs, ses souffrances, ses humiliations, aussi bien qu'avec ses grandeurs et ses triomphes, c'est la dépeindre comme Sophie aurait voulu, je crois, être connue et comprise. Je tenais à relever chez elle des traits d'humanité générale. Ils la rapprocheront des autres femmes, non pour en faire une exception, mais pour donner une confirmation à la règle qui veut que la vie du cœur soit la plus importante de toutes, non seulement pour une femme, mais pour tout être humain. Sur ce terrain commun, les plus modestes comme les mieux doués peuvent se rencontrer. Fin.